Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 16th through the 26th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your bedroom, living room, or home office, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible.
Hello!
Bonsoir, Jennifer. C'est pas tard le soir, mais bonsoir.
C'est le jour, c'est l'après-midi.
Tard dans l'après-midi, presque le soir, mais pas tout à fait le soir.
Oh, comment ça va?
Ça va. Très bien. On a acheté un nouveau bicyc pour El Petito aujourd'hui avec les training wheels. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais
les petits trous.
Yeah.
Avec des petits trous.
Puis elle est débile malade. Elle vole comme le vent. Là.
C'est... Elle va vite comme l'éclair.
Oh yeah.
Parfait, ça.
Jennifer, as-tu passé une belle journée?
Oui, j'ai passé une belle journée. J'ai travaillé. C'est ça.
Tu travailles beaucoup, Jennifer. Tu travailles très fort.
Tout le monde travaille très fort.
I know, mais toi, c'est beaucoup, là.
Mais non, tout va bien.
Good.
Tout va bien. Et aujourd'hui, je vous raconte une histoire que Michel a rédigée.
Pim, 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 pim. Est-ce que ça va être encore super ultra débile comme la dernière fois où je voulais mettre Michel dehors parce que c'était trop terrible?
Ben, ça, je pense que oui. Là.
Oh non. Ouais. Michel, wow! Petit à côté, merci à toutes les sombreux qui ont pris le temps pour voter pour nous dans les Cult MTL Best of MTL. On était le deuxième best podcast selon les votes, so ultra. Merci mille fois.
J'en reviens pas.
Non, it's crazy.
Je l'ai dit sur le groupe Facebook, tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vous demande de voter ou des likes ou des affaires comme ça, j'ai vraiment l'impression de vous en demander tout le temps beaucoup. Puis je me sens mal, mais en même temps, tous les podcasts font ça. Tu sais, c'est comme ça que ça nous fait avancer. Puis là, cette année, tu sais, on a été dans le top. La première fois qu'un podcast de True Crime se retrouvait dans le top Best of Montreal, c'était il y a 2 ans. Là, après ça, l'année passée, on était encore là. Puis là, cette année, tu sais, quand tu l'as partagé, j'étais comme, bon, ben là, on va toujours bien pas être là-dedans une autre fois. Les gens, ils vont s'écœurer de nous écouter à un moment donné, on dirait.
Mais les gens se n'ont pas écœurés.
Je suis tellement contente que vous vous écœuriez pas de nous, parce que moi, je m'écœure pas de faire ça.
Non, c'est le fun.
Merci. Puis notre photo est dedans, puis tout.
I know.
Cette photo-là, c'était notre premier show.
Notre premier show live. À vie. Fouf.
Ouais. Fait que c'est cette photo-là, donc, elle représente beaucoup.
Yeah, c'est malade. Merci tout le monde. C'est fucking cool. Mais c'est ça. Tous les podcasts font ça. À le début de quasiment tous les podcasts que j'écoute, c'est comme souscrire, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Patreon, blablabla, votez pour nous, 5 étoiles, mettez des reviews, blablabla. Mais ça aide.
Oui, ça aide.
Ça marche.
C'est ça. Exactement.
Ça marche. On a même des nouveaux auditeurs qui nous avons trouvés grâce à cette édition de Best of MTL.
Oui.
Mm-hmm. Oui. Ça, c'est cool. Ça marche.
Merci. J'en reviens pas encore.
Oui.
Alors, je disais que l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire que Michel a écrite, puis la pauvre cocotte, elle avait fait une vingtaine de pages.
D'où Jésus?
Puis elle a tout perdu, il a fallu qu'elle recommence.
Non!
Ouais.
Oh, pauvre Michel, je suis désolé que tu as vécu cette expérience de crotte.
Ouais, je suis pauvre, ça. Ay, t'es-tu prêt?
Nope.
Prêt, pas prêt? Juste avant, je veux juste dire que l'histoire d'aujourd'hui, je vais dire les noms de famille, puis tu vas comprendre pourquoi. Tu sais, d'habitude, j'appelle pas les personnes par leur nom de famille. Tu sais, mettons, c'est comme si je disais, je sais pas moi, Irvin et Tremblay sont allés, tu sais. Mais là, aujourd'hui, je vais le faire.
Why? Because it's like 3 guys named Steve?
Non.
OK.
Tu vas comprendre. Quand je vais le dire, tu vas faire, oui.
OK.
Prêt, pas prêt?
Oh boy.
J'y vais. Le 10 mai 1993, à Rockford, dans le comté de Winnebago, en Illinois, naît une adorable petite blonde aux yeux bleus. Son nom, Melissa Lamèche. Elle a vécu une enfance plutôt normale, OK? Ses parents sont Gus et Dina. Ses frères et sœurs s'appellent Cassie Ball, Carl Lamèche, Brian Lamèche et Julie Eileen Shedd. Je m'excuse, l'orthographe.
Julie Eileen Shedd?
Julia Lynn.
Oh, Julia Lynn Shedd. Okay. Ouais. All right. Wow, OK.
Alors, c'est une famille reconstituée. Ses parents sont séparés, mais ils s'entendent très bien et ils vivent près.
OK, cool, chill, nice.
Melissa grandit à Mount Morris, toujours en Illinois. Elle est très pratiquante et impliquée dans sa communauté. Elle fait partie des scouts et des 4H.
Oh, the 4-H Club, OK.
Ouais.
Moi, j'étais un scout. Puis.
C'était une Jeannette.
C'était solide, ça. Très bonne affaire.
Ben oui. Puis là, moi, j'étais comme 4H, que c'est ça?
Yeah.
C'est un genre de club pour les jeunes qui a pour objectif de les aider à développer leurs aptitudes personnelles, sociales, scientifiques et agricoles. Dans le fond, c'est un petit peu comme les scouts, mais sans l'aspect religieux. Mais toi, t'as fait les scouts, mais il n'y avait pas de religion, right?
No way!
Ouais. Mais aux États-Unis, c'est peut-être plus concentré sur l'aspect religieux. Là, ben, pas plus, mais...
Les États-Unis, en général, c'est plus concerné avec l'aspect religieux.
Ouais, c'est ça.
On est plus secularist.
Ben oui. Donc, le nom 4H, là, c'est pour Head, Heart, Hands and Health, donc tête, cœur, main et santé. Puis dans les années 80-90, c'était assez courant ce genre d'organisation-là. Ça permettait aux enfants d'avoir des loisirs organisés, de développer plein de compétences utiles, puis de vivre des expériences sous la supervision sécuritaire d'organisations reconnues.
Mm-hmm.
Au Québec, ça existait, les 4H. Ça a été créé
really?
En 1942, puis la devise a été traduite. Hein? C'était « honneur dans les actes », donc « honneur », premier H, « honnêteté dans les moyens », « habileté dans le travail », « humanité dans la conduite ». Donc, « honneur, honnêteté, habileté, humanité ».
Solide.
Oui.
C'est très bonne affaire.
Alors, on retourne avec Melissa Lamèche. Elle est appréciée de ses amis et de sa famille. C'est une petite fille super brillante, elle est sensible, elle adore les animaux, puis elle est toujours prête à sauver ceux qu'elle croise sur sa route.
Oh, nice.
Au secondaire, elle est super impliquée, elle fait partie du conseil étudiant de son école, elle fait beaucoup de bénévolat. Son frère la décrit comme une personne joyeuse, sociable et toujours prête à apporter son aide. C'est une fille ambitieuse, elle est intelligente, puis elle cherche toujours le positif, même dans les situations plus difficiles. Melissa termine son secondaire en 2011, puis elle va explorer un peu ses intérêts pendant les années suivantes en fréquentant plusieurs établissements différents. Donc, elle fait des études, mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire. Puis c'est pendant qu'elle étudie qu'il y a un événement qui va changer sa vie. Puis là, en vivant ça, elle doit se rendre en urgence à l'hôpital, puis c'est là qu'elle se rend compte que dans la vie, elle veut devenir ambulancière.
Oh, OK. Quel twist.
Quel twist. En 2016, elle commence à travailler comme ambulancière. Bien, paramédic. Je m'excuse pour ceux qui conduisent des ambulances et qui font des soins paramédicaux. Là. Paramédic. OK. Donc, elle commence à travailler comme paramédic, puis sa passion est évidente. Elle adore ça. Elle n'hésite pas à enfiler plusieurs corps de travail de suite. Elle fait tout le temps supplémentaire. Elle a vraiment l'impression d'aider les autres et de faire une différence dans leur vie. Mais en fait, oui, tu fais une différence dans la vie des gens quand tu es paramédic. Là. Je veux dire, tu sauves littéralement des vies.
Et tu fais une crise de grosse différence dans les vies.
Puis, peu importe, même si c'est pas pour sauver une vie, quand tu es ambulancier, tu arrives à un des moments les plus tragiques de la vie des gens. La plupart du temps, ils vont se rappeler de toi toute leur vie.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Je veux dire, à moins que si une fois tu appelles les ambulances puis qu'ils viennent chez vous, ça arrivera pas souvent dans ta vie. C'est sûr que tu vas te rappeler de ce moment-là. Là.
Oh yeah, c'est comme un super héros qui vient te sauver. Là.
Ah, c'est ça.
C'est big.
Shout-out à tous les paramédics, s'il vous plaît. Vous êtes tellement bons, bravo. Vous faites
mega
des
shout-out.
Heures de débiles. Vous arrivez chez vous, puis vous pouvez être traumatisé avec tout ce que vous vivez.
Parce que des fois c'est pas grand-mère a tombé puis elle a busté sa jambe ou quelque chose.
Mais des fois c'est quelqu'un de pendu, des fois c'est quelqu'un qui meurt. Alors Mélissa Lamèche n'hésitait pas à enfiler plusieurs corps de travail de suite, puis elle a vraiment l'impression, comme je disais, d'aider les autres puis de faire une différence dans leur vie. Elle aime aussi beaucoup les quiz puis les jeux de connaissances générales, puis elle a même commencé à animer des soirées de trivia dans les bars. Mon parrain, il va toujours dans des soirées de trivia.
C'est le fun.
Puis elle devient même impliquée dans le club national de trivia. Michel, elle écrit, c'est vraiment cool ces soirées-là. Oui, c'est vrai que c'est vraiment cool.
Oh yeah.
Puis là, on va parler de quelqu'un d'autre. Donc là, il y a Mélissa Lamèche. Puis il y a Matthew Plott.
Pardon? Plott?
Pour ça que je vais l'appeler par son nom de famille. Son nom, il se prononce...
Monsieur Plott.
Ça s'écrit P-L-O-T-E. On ne le prononce pas comme ça en anglais, mais moi, je l'appelle Plott.
C'est juste.
Mélissa, c'est une fille adorée de ses pères. Elle est guidée par ses désirs de liberté et par sa personnalité unique. En 2013, elle a rencontré Plott. Alors que les deux étaient aux études. Ils deviennent rapidement des amis, puis avec le temps, ils commencent à se fréquenter, mais ils ne deviennent pas un couple, mais plus des amis plus, mettons.
C'est nice.
Friends with benefits. Matthew Plott, c'est un gars spécial. Il est né en 1987. Il est un petit peu plus vieux que Mélissa. Mélissa est née en 93, on se rappelle.
Yes.
Il a, lui aussi, toujours travaillé dans le domaine des services médicaux d'urgence, puis il a aussi travaillé pour lutter contre les incendies. Donc là, vous voyez venir. Il a commencé en 2013 à travailler comme paramédic, puis après ça, comme pompier volontaire. Sa carrière va vraiment bien. Il a gravi rapidement les échelons pour devenir lieutenant et coordonnateur des services médicaux d'urgence à la caserne où il travaille.
Dang. All right. Let's go, Monsieur Plott.
Ses collègues l'aiment bien, mais ils le décrivent comme un gars vraiment secret, comme un gars très discret. Puis finalement, ils connaissent presque rien de Plott. Puis les pompiers, là, quand ils sont de garde, sont ensemble 24 heures sur 24.
Yeah.
Fait que normalement, tu tisses des liens assez serrés, puis tu parles, là, parce que quand il n'y a pas de feu, quand il n'y a pas d'urgence, en fait, parce que les pompiers, on sait maintenant qu'ils vont, c'est les premiers répondants, ils vont pas juste quand il y a des feux, mais ils connaissent rien de Matthew.
Ça, c'est weird. Tu sais, mon oncle était pompier, puis m'a conté des histoires de comment ça fonctionne, le caserne, puis tu sais, s'ils sont pas en train de répondre à un appel, tu sais, ils vont prendre soin de leur équipement, laver le truck. Ils ont souvent un gym dans la caserne. Ils vont cuisiner ensemble.
Que ton oncle n'utilisait clairement pas.
Well, dans le temps, il était vraiment fit. C'est,
non.
Maintenant, il est retraité.
Ta mère me l'a dit qu'il était...
Nah, he's all right. He's all right.
Il était toujours...
Be cool. Mais tu sais, ils cuisinaient ensemble, ils mangeaient ensemble. T'sais, ils sont toujours ensemble. C'est facile de comprendre qu'ils vont être assez proche, mais M. Plott est très discret, là.
Non, puis monsieur parle pas de ses histoires d'amour, il parle pas de sa famille, il parle pas de ses fréquentations. Ils savent rien sur Plott. Mélissa et Matthew ne sont pas un couple officiel, hein, je te l'ai dit, mais ils continuent de se fréquenter au fil des ans. Elle lui est exclusive. Fait qu'elle, elle va pas voir ailleurs, mais pas certaine que c'est réciproque. Elle sait pas si lui va voir ailleurs, parce que il est pas juste discret avec ses collègues, mais il est discret avec elle aussi. Elle sait pas trop ce qu'il fait, finalement.
I mean, il y en a des hommes comme ça, mais ça se peut aussi que M. Plott est en train de cacher quelque chose.
Malgré que leur relation soit perçue comme un conflictuel par moment par les proches de Mélissa, elle reste avec lui, est satisfaite de ce que Matthew accepte de lui donner comme implication. Ça lui va. En 2020, Mélissa apprend qu'elle est enceinte. Donc là, leur relation, ça prend un tout autre sens. Puis elle annonce à Matthew qu'elle attend un bébé, que le bébé, c'est le sien. Matthew, il veut rien savoir de devenir père, puis demande à Mélissa de se faire avorter. Tu sais, c'était même pas, mettons, il a même pas considéré deux secondes comme, ben non, tu vas te faire avorter.
Non, catégoriquement, non, je veux pas de bébé, je suis Monsieur Plott, ça paye pas mon affaire.
C'est ça. Mélissa, de son côté, elle a toujours su qu'elle aurait un enfant à un moment donné.
Okay? Sure.
Elle est super catholique.
Mm-hmm.
Elle a 27 ans. Puis elle a une bonne job, stable. Yeah. Elle est dans une relation qui, ben, c'est stable. Tu sais, je sais pas trop la relation, mais nous, mais ils sont ensemble, ils se voient régulièrement. Tu sais, c'est pas simple comme relation, mais elle, ça la convient encore une fois.
Yeah.
Elle a un bon revenu. Elle est très proche de sa famille, donc elle sait qu'elle va avoir de l'aide. Je l'ai dit, elle est très croyante, très pratiquante, fait qu'on peut imaginer que c'est un peu pas mal contre ses valeurs religieuses là, de mettre fin à une grossesse. Donc, elle est comme « je garde l'enfant
mm-hmm. ».
Matthew, plot, n'est pas content. Il refuse la paternité. Il insiste auprès de Mélissa pour qu'elle ait un avortement. Il lui fait du chantage.
C'est quoi chantage?
Comme il lui dit, mettons, hey, là, si tu te fais pas avorter, là, je dis pas qu'il dit ça, mais je te donne un exemple. Si tu te fais pas avorter, là, tu t'entendras plus jamais parler de moi.
Oh, genre, OK. So...
C'est quoi du chantage en anglais?
Ultimatum.
Souvent, il y a ghost pendant un moment. Okay, il y a ghost pendant, mettons, une semaine, deux semaines, puis il revient, puis il répète une coche. T'sais, un moment donné, il y a ghost, il revient, il fait ça pendant tellement longtemps que la grossesse est rendue trop avancée pour se faire avorter. Puis de toute manière, elle a dit qu'elle se ferait pas avorter. Mm-hmm. C'est son corps. Je comprends qu'un bébé, ça se fait à deux, mais t'sais, si elle est prête à
élever le kid tout seul, si ça c'est le cas, then c'est sa choix.
C'est ça. Elle est tout de même heureuse à sentir bien. Ses parents sont super impliqués auprès d'elle. Elle n'est pas toute seule. Elle est soutenue par sa famille, autant financièrement que psychologiquement. Dina, sa mère, elle lui dit « Matthew, là, il ne veut rien savoir de toi, du bébé. Laisse-le partir, laisse-le aller parce qu'au final, c'est ton bébé, c'est ton corps. Tu as tout ce qu'il faut pour être une bonne maman. On est là pour t'aider, on va te soutenir. Laisse-le faire. »
Mm-hmm.
Je comprends la maman. Et Mélissa, de son côté... Je comprends un petit peu sa réaction parce que probablement qu'elle espère qu'il change d'idée parce qu'elle, en secret, elle envoie des nouvelles à Plot. Elle lui envoie des photos d'échographie, elle lui envoie des informations sur le suivi de la grossesse, elle lui partage le nom de l'enfant, elle veut l'appeler Barrett. En anglais, c'est comment? Barrett?
Barrett.
Barrett. C'est pas pareil que Barrett.
Non.
Matthew répond pas toujours à Mélissa, mais à un moment donné, elle se dit « ben, il va peut-être être content d'avoir ces photos-là à un moment donné. » T'sais, on ne peut pas lui en vouloir d'espérer avoir le support du papa. T'sais.
Yeah. I mean, c'est sûr qu'idéalement, le kid va agrandir avec une famille, avec un père et une mère qui l'aime. Pis, t'sais.
Mais tu sais, maintenant, il y a toutes sortes de familles. T'sais, il y en a des solos parents, puis elle est supportée par toute sa famille. Fait que, je suis certaine que cet enfant-là manquerait de rien.
Non.
Alors, le temps avance et Mélissa, qui est déménagée avec son père dans la maison familiale, tombe enfin en congé de maternité. Elle a apporté avec elle son chat qui s'appelait Antonio.
Antonio del gato.
Qu'elle a adopté d'un refuge pour lui donner une belle vie. T'sais, je l'avais dit tantôt qu'elle aimait vraiment aider les animaux. Hein.
Mm-hmm.
Donc, c'est parfait. Elle a tout le temps de se préparer. Elle parle beaucoup avec sa famille, autant au téléphone que par message texte. Puis la date de l'accouchement est prévue. Elle va être provoquée. C'est sa date, le 27 novembre 2020. Ça tombe parfaitement. Le 26, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Elle va avoir le temps de célébrer avec sa famille, de se reposer. Puis après ça, bang, elle accouche juste après Thanksgiving.
Wow, wow, wow.
Donc, le 27 novembre, elle a un rendez-vous pour... être provoquée pour accoucher, finalement.
Mm-hmm.
Le 25 novembre, elle se lève, elle fait des petites tâches dans sa maison, puis sur l'heure du dîner, hein, Cassie, sa sœur, l'appelle, puis elle parle longtemps au téléphone avec elle. Elle jase de ce qui l'attend, du futur, de ce qui s'en vient avec le bébé, tu sais, sa vie va changer, là. Puis elle parle pendant longtemps, genre deux heures et demie, là. Puis un moment donné, Mélissa, elle interrompt sa sœur, elle dit « Ah, t'as peu, attends, voir. » Puis là, elle se rend compte qu'elle voit Matthew Plot dans la fenêtre. Fait qu'elle parle à sa sœur.
Mm-hmm.
Puis comme, tu me fucking niaises. Il est freaking encore là. Je lui avais dit d'arrêter de faire ça. Parce qu'apparemment, qui venait, mais elle n'en parlait pas aux autres, tu sais. Là, elle dit, je m'excuse, il faut que je raccroche. Là. Elle dit, je vais te rappeler plus tard. Matthew, il entre dans la maison. Il est venu voir Mélissa pour discuter des arrangements à prévoir pour le paiement des frais d'accouchement aux États-Unis. Accoucher, c'est 30 000 $ et plus. Là,
oh, okay? C'est cher!
C'est ça. Puis de parler de qu'est-ce qui arrive pour ce bébé-là, ce qui est drôle parce qu'il ne voulait rien savoir tout au long de la grossesse. Après ça, ils ont une relation sexuelle consentante, hein, consentie. Mm-hmm. Puis Mélissa l'invite à souper, mais il ne reste pas. Il quitte la maison alors que Mélissa s'apprête à préparer le souper. À 16h30, la voisine de Mélissa Lamèche remarque une épaisse fumée qui s'échappe de la maison.
Ouh, ouh.
Elle appelle tout de suite les pompiers qui arrivent dans les minutes qui suivent. Dès leur arrivée, les pompiers entrent dans la maison. Ils trouvent Mélissa inconsciente, face contre terre, sur le plancher de la cuisine.
Non.
Ils la sortent dehors et commencent les manœuvres de réanimation tout de suite. Malheureusement, ils doivent déclarer la mort de Mélissa à 16h54, le 25 novembre 2020.
Non, wait, 2 jours avant qu'elle s'accouche.
Son bébé n'avait que 2 jours à passer en sécurité dans son ventre.
Jennifer!
Barrett?
Yeah?
Il survivra pas non plus.
Ah, Jennifer, Michelle!
Il a manqué d'oxygène trop longtemps.
I don't like it. J'aime pas ça, Jennifer.
Hey, baseball fans, it's time to swing big on your bets this season. Step up to the plate with an odds boost token from BetMGM, an official sports betting partner of Major League Baseball. No opt-in is required. Just log into your BetMGM account to receive your odds boost token. Then, place a bet on any MLB game and activate your token. If your boosted bet hits, you'll score a bigger payout, no matter the showdown. BetMGM is your betting home for baseball. Major League Baseball trademarks used with permission. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. This U.S. promotion offer not available in Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. For New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. For Arizona, call 1-800-NEXT-STEP. For Massachusetts, 1-800-327-5050. For Iowa, 1-800-BETS-OFF. For Puerto Rico, 1-800-981-0023. Subject to eligibility requirements. Rewards vary and expire in 1 to 7 days. In partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel.
Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 16th through the 26th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your bedroom, living room, or home office, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Les pompiers commencent tout de suite à chercher le foyer du feu. Ils cherchent du côté de l'électricité, mais il n'y a rien qui peut avoir causé un incendie aussi violent. Je vais te montrer des photos, c'est comme okay, pas juste un petit feu, là. Dans la cuisine, ils observent beaucoup de dommages. Genre, les murs sont tombés, le plafond aussi, les électros ils ont fondu, c'est irrécupérable. Puis les dommages sont particulièrement importants sur les armoires au-dessus du poêle. Fait que tu regardes notre poêle, il y a des armoires au-dessus. Là.
Oui.
Fait que ça fitterait avec tu cuisines, puis là, ce que tu cuisines pogne en feu, fait que les armoires au-dessus.
Ouais, comme un feu de graisse ou l'huile ou whatever.
C'est ça.
Tout Jésus, Jennifer. Ah, c'est une fucking pompier en plus. Mm-hmm.
Mais étrangement, il n'y a pas de casserole sur le feu, puis il n'y a aucun élément qui est allumé, parce que si elle avait foutu le feu en cuisinant, ben.
Ça serait encore là.
C'est ça. Ça, c'est le poêle.
C'est un beau point.
Oui, il est cramé, s'il vous plaît.
I mean, avant que ça soit fucked up par la feu, c'était un beau point.
Oui. L'incendie est vraiment limité à la cuisine. Hein? Puis les premiers enquêteurs remarquent rapidement que Mélissa avait au moins 3 options pour sortir de manière sécuritaire de la pièce.
Right.
Ils se demandent vraiment là, comment c'est possible qu'une paramédic expérimentée qui est en bonne santé, là, tu sais, elle est enceinte, mais quand même en très bonne santé. Comment ça se fait qu'elle a pu rester prisonnière des flammes jusqu'à en mourir quand elle avait 3 sorties?
Right.
Tu sais, elle était pas pognée quelque part, là.
Mais juste pour jouer avocat du diable, il y en a du monde que quand ils sont confrontés avec quelque chose qui va les faire peur ou quelque chose extrêmement stressant, comme un feu chez vous,
mm-hmm.
tu perds connaissance.
Ben oui. Ça, c'est possible. Est-ce qu'elle a eu un malaise? Un malaise, tu sais, d'être quand même enceinte. Puis je veux dire, enceinte ou pas, tu peux avoir un malaise, là.
Yeah.
Mais tu sais, c'est quoi le lien avec le feu? De bord, ça a eu un malaise. Je veux dire, qu'il y a rien sur le... Ben, c'est ça, là.
Mm-hmm.
Très rapidement, les premiers enquêteurs pensent que le feu est le résultat d'un incendie volontaire. La dépouille n'a pas beaucoup de traces de brûlure. Si on se fie à l'état de la pièce où elle a péri, elle devrait avoir plus de suie sur son corps et autour des voies respiratoires, pardon, mais il n'en est rien. Il n'a pas de marque de quelqu'un qui
respirait la boucane.
Qui a cramé d'un feu, mettons, ça, c'est la cuisine.
D'où, Jésus, Jennifer, c'est fucked up, honesty. Un bel frigo aussi.
C'est
la machine à glace.
C'est ça, j'allais dire.
C'est
ouais.
Luxe.
Alors, les premières suppositions pour expliquer la mort de Melissa et Barrett sont qu'elle aurait pu chuter, perdre conscience, hein, comme tu as dit tantôt, ou vivre une complication à cause de sa grossesse. La famille est sur les lieux presque immédiatement. Dès qu'ils ont su la nouvelle, ils sont allés chez elle.
Dieu Jésus, oui.
Pendant que les enquêteurs pompiers de l'État continuent à inspecter la scène de l'incendie, d'autres discutent avec la famille Lamèche à l'extérieur. Puis là, ils apprennent rapidement comment s'est terminé l'appel entre Cassie, hein, puis Melissa, les deux sœurs. Fait que là, ils apprennent, OK, fait qu'elle a raccroché. Parce que Matthew, il était là, puis elle était comme « Fuck, qu'est-ce qu'il fait là? » Je lui ai dit de plus venir. Elle raccroche, elle dit « Je te rappelle. » Puis là, lui est là. Fait que lui, il l'a vu en vie pour la dernière fois.
Monsieur Plot de trou de bête.
Puis en plus, c'est un pompier. Puis là, il y a un incendie. Tu sais, c'est weird, là.
Mm-hmm.
Dans les minutes qui suivent, Plot est convoqué en entretien par la police.
Hell oui.
Il est une personne d'intérêt. Mais pour le moment, la discussion est informelle. Les inspecteurs qui s'entretiennent avec lui le trouvent froid, le trouvent distant.
I mean, c'est son état normal. Right?
C'est ça. Il est comme ça aussi à la job, tu sais. Fait que,
yeah. Il était comme ça avec elle aussi.
Matthew raconte laconiquement ce qui s'est passé pendant sa visite chez Melissa. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a eu des relations sexuelles consentantes. Avec elle. Il dit, on a couché ensemble. Elle voulait, là. C'est comme s'il disait de même. On a couché ensemble, puis elle voulait. Puis tout était merveilleux, tu sais.
OK. Je la doute, mais OK.
C'est drôle quand tu dis à quelqu'un, ouais, on a couché ensemble. Ouais, je suis sorti l'autre fois, j'ai couché avec, là. Puis il voulait, là.
C'était consentant.
C'est
comme,
Je veux dire, si tu me parles, tu me dis, j'ai couché avec, je veux.
Tu vas assumer que c'est une mutual affaire de sexe, là.
En tout cas.
Mm-hmm.
Mais ce qui met l'emphase là-dessus. Puis là, il y a une chose qui attire l'attention des intervenants. Hein? Matthew, il dit qu'il est allé voir Melissa pour parler d'argent, pour parler d'arrangement, puis d'avoir l'autorisation d'être présent pendant l'accouchement. Puis là, il dit quelque chose comme, parce que, tu sais, je voulais y aller la voir, parce qu'il y a un deadline pour ça, là. Puis là, un deadline, pourquoi? Ben pour la grossesse, il y a un deadline pour la grossesse. C'est juste vraiment drôle d'utiliser l'expression « deadline » pour une grossesse, comme si, genre, à la fin, il y a quelque chose qui est plus possible. Tu sais, un deadline, c'est comme... Mais je comprends.
Quand il dit « deadline », ça peut être relié au fait que c'est un accouchement provoqué.
Puis qu'il...
So, il sait exactement quand ça va se passer, puis il veut avoir tous ses canards dans une...
Non,
dans une ligne, là, pour être préparé, tu sais, OK, on a discuté ça, je vais payer pour ça, ça va être l'arrangement, whatever, whatever.
Mm.
Peut-être, mais comme tu dis,
je comprends,
c'est bizarre la façon qu'il dit ça, you know.
C'est deadline dans le sens qu'il veut régler ça avant qu'elle accouche, c'est ça,
right.
Le deadline, je sais pas.
Right, juste pour que tout soit net, propre et...
Sec.
Sec, précis, whatever, I don't know. Je fais mon possible, Chris.
Fait que, tu sais, cet interrogatoire-là, c'est informel, encore une fois. Oui, il est avec les enquêteurs, mais il n'y a pas d'avocat, pas rien. Tu sais, il répond à des questions.
OK.
Donc, ils n'en ont pas assez pour le mettre en détention. C'est pas un suspect à ce moment-là. Puis, tu sais, aussi, il y a aussi la manière de penser qu'ils sont comme, c'est un pompier. Les pompiers, ça éteint des feux, ça les allume pas, tu sais.
Right, mais un pompier est le meilleur équipé pour mettre quelque chose en feu parce que souvent, après un feu, il va avoir une investigation. Est-ce que c'était un accident? C'est où que le feu a commencé? De quelles circonstances? Est-ce que c'était une fuite de gaz ou un problème électrique? Whatever, whatever.
Alors, il va y avoir deux autopsies de pratiquer.
Oh, Jennifer! Oh, je sais pourquoi, puis ça me dérange.
Sur le corps de Mélissa et le corps du petit bébé.
Oh, little Barrett. Oh, non.
Alors, la première, dès le 26 novembre, puis la seconde, quelques semaines plus tard, pour aller chercher des prélèvements supplémentaires. Les résultats sont déroutants. Les taux de monoxyde de carbone.
Mm-hmm.
Tu meurs dans un feu. Tu respires de la boucane, tu perds conscience, tu meurs.
Mm-hmm.
Puis t'as tout ça dans tes poumons, là, dans ton corps. Mais le taux de monoxyde de carbone sont tout à fait normaux.
So, elle était morte avant que le feu soit allumé.
Bravo, tu commences à comprendre.
T'as pas Jack, Jennifer.
132, t'es bon.
Chris. I mean, la dernière épisode, j'ai échappé l'affaire en Chris. J'ai vraiment perdu le bout de fil, là.
Ah, ça, c'était le Patreon.
Yeah, I know. Okay. I know.
T'as pas tant perdu le bout du fil, c'est juste que t'avais mal compris quelque chose.
Puis tu avais dit qu'il y avait une hausse de population de comme 200%.
Je pensais que c'était une hausse de crime.
Puis je suis comme, Chris, comment ça? Puis tu es comme, ben, il y a du monde de Houston qui veut déménager en banlieue pour avoir une vie plus tranquille. Puis je suis comme, mais ils ont amené tout le criminel, quoi?
fait que c'est ça. Donc, comme Colin vient de le dire, comme le taux de monoxyde de carbone est normal dans son corps, dans le corps du petit aussi, puis il n'y a pas de suie dans son système respiratoire,
dun, dun, dun.
On confirme qu'elle était morte avant le feu.
Mm-hmm.
La médecin légiste qui performe l'autopsie trouve ensuite des traces de ligatures sur son cou et des hémorragies pétéchiales sur son cou et son visage. Merci, Michel, pour le mot pétéchial. Colin, c'est quoi des hémorragies pétéchiales?
C'est quand tu étrangles quelqu'un, puis les vaisseaux sanguins pop.
T'es bon. Donc, Mélissa, la mèche, est morte assassinée et Barrett est mort parce qu'il a aussi manqué d'oxygène, je veux dire. Du poulet dans le monde.
Tu me fais chier encore.
Oh, je vais tellement te faire chier encore plus.
Oh, come on. Non.
Antonio.
Antonio!
Le chat.
El gato Antonio!
Il est mort aussi.
Comment ça?
Il est allé sous le lit, se cacher. Puis il est mort avec à cause de la fumée.
Oh, Jennifer! Oh!
À la mi-décembre, la famille tient des funérailles pour Mélissa et Barrett Lamèche.
Oh, c'est triste.
Son bébé qui ne va jamais naître. Dina, la maman complètement démolie, prononce un discours très émouvant. Elle dit « On n'a pas eu la chance de lui embrasser le front, de caresser ses joues. Le premier contact qu'on a eu avec lui, c'était quand il était dans son cercueil. »
Oh, Jennifer! Oh non! Ces petits joues de bébé, là!
Le petit cercueil.
Oh non!
Et dès la première fois que j'ai pris sa main dans la mienne, je me souviens que j'ai pleuré et que j'ai décidé que j'allais continuer à lui tenir la main, puisque Mélissa n'a pas eu la chance de le faire.
Oh, ça ne devrait pas être, Jennifer! Oh, non, I don't like it.
Les Lamèches sont convaincus que Plot est le responsable de l'épreuve qu'il traverse.
Ben oui, tu sais, elle a été sur le téléphone avec sa sœur, puis elle a dit, oh, je vois M. Plot
ben oui.
À travers la fenêtre. Je vais raccrocher, puis tout à coup,
Il pense qu'il s'agit d'un gros égoïste qui voulait pas que sa vie change avec l'avenue du bébé. Plus tard, les enquêteurs vont découvrir qu'il avait une vie sentimentale plutôt complexe et qu'il jonglait toujours avec de multiples partenaires. T'sais, on avait vu ça venir, là. Puis il disait pas à personne qu'est-ce qu'il faisait. Là.
Sale guidoun!
S'il voulait-tu pas avoir moins de temps pour toutes ses blondes, il voulait clairement pas que sa vie change. Puis il acceptait pas non plus que... On dirait qu'il était comme... Ah, c'est ça, c'est un esti d'égoïste. Il a même pas voulu laisser Mélissa avoir la chance d'être maman, puis probablement qu'il avait peur de lui devoir de l'argent.
Oui, parce que même s'ils sont pas ensemble, je pense qu'il va devoir payer des paiements de... c'est quoi? Alimony en français.
Moi, je sais pas comment ça marche si tu refuses. Mettons que tu signes de comme de quoi que tu refuses la paternité. Genre.
J'ai aucune... I don't know. Ouais, mais c'est pas. Sûr que ça va compliquer sa vie, mais pas assez pour fucking faire ça, Jennifer.
Mais ça n'a aucun rapport. C'est ça l'affaire que je comprends pas, c'est que, tu sais, Mélissa lui avait dit qu'elle lui demandait pas d'argent puis qu'elle lui demandait pas de s'impliquer. Mais, je sais pas, peut-être qu'il avait peur. Il avait peur de quelque chose. Il était égoïste, comme Michel a dit. Non, elle voulait juste que personne ne regrette d'être passé à côté du bonheur d'avoir Barrett dans sa vie. Tu sais, elle voulait... En fait, elle dit d'ailleurs, elle a un peu poussé sa loque à ce sujet, en lui donnant tout le temps des nouvelles. Mm-hmm, lui, photos. Voulait rien savoir. Elle, elle faisait ça pour bien faire. Puis quand on dit qu'elle a poussé sa loque un peu aussi, c'est que 2 mois plus tôt, Mélissa a contacté les parents de Matthew pour leur annoncer qu'elle était enceinte.
Puis j'imagine que c'est la première fois qu'ils entendent ces nouvelles-là.
Puis eux, ils étaient vraiment contents.
Oh yeah, ils vont avoir un grand bébé.
À ce moment, elle découvre que Matthew l'avait même pas dit à ses parents. En fait, elle s'est présentée à leur maison, comme « Allô, je suis enceinte, puis c'est votre fils, le papa, tu sais. » Puis quand il a appris que Mélissa le fait ça, plot, il a pété une sale coche.
Oh yeah.
Bon, malgré tout ça, c'est pas suffisant pour inculper Matthew du meurtre d'une de ses copines des 7 dernières années et de son enfant qu'elle portait. Mais là, l'étau commence à se resserrer, puis les enquêteurs continuent de collecter des preuves. On s'entend que c'est le seul suspect, puis c'est la seule chose qui fait du sens. C'est le dernier qui l'a vu en vie. Elle a un bébé, il veut
pas. Il est sur la scène de crime!
C'est ça. Non, exactement. Alors, ils tirent un peu partout, ils envoient des prélèvements d'ADN pour des analyses, ils obtiennent l'autorisation d'enquêter sur les historiques téléphoniques de Mélissa, puis contactent Amazon parce qu'ils ont trouvé sur les lieux du meurtre un Amazon Echo Dot. Ils espèrent que l'appareil pourrait avoir enregistré les derniers moments de vie de Mélissa, une conversation avec son meurtrier ou ses cris pour de l'aide, n'importe quoi qui pourrait aider à identifier la personne. Fait que, tu sais, là, les enquêteurs, pis ça, comme Michel a écrit, ils tirent un peu partout. Ils essayent tout.
Good.
Les enquêteurs, ils vont contacter le boss de Matthew dans la caserne où il travaille, environ 75 miles de la maison de Mélissa. Il l'informe, hein, le boss, de l'enquête à propos de son bras droit, de Matthew. Puis le boss, il est vraiment bouche bée parce que non seulement Matthew ne leur a jamais parlé d'une relation stable avec une femme, mais il ne leur a jamais dit pantoute qu'il allait être père. Puis il a en plus jamais dit « Hey, by the way, la femme qui est enceinte de moi est morte dans un incendie, puis le bébé est mort aussi. » Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de couches, là. Fait que, imagine le boss qui reçoit cet appel-là. Hein? Quoi? Il le voit tous les jours. Des fois, il passe 24 heures avec lui en ligne.
Mm-hmm.
Ce gars-là vient de perdre la mère de son enfant, l'enfant, puis il en parle pas. C'est ouais, fucked up,
c'est
là.
C'est ultra fucked up, Jennifer. I mean, ça... Hey, come on!
Mais non, c'est ça. Fait que là, les enquêteurs demandent au boss Plot de travailler le jour de l'incendie. Il était sur l'horaire, mais il avait pris un congé de maladie. Fait que la caserne place tout de suite Matthew en arrêt de travail, puis son boss l'appelle pour lui expliquer la raison de cette suspension-là. Il reste de glace, il développe pas plus, il parle pas plus, fait comme « OK ». Le 28 août 2021, les enquêteurs convoquent à nouveau l'ancien pompier Matthew en interrogatoire. Puis là, il se présente sans questionner pourquoi. Il est comme, il arrive, allô. Ben, il dit pas allô, mais il demande pas, quand t'es pas coupable, t'es comme, pourquoi je suis là? Mm-hmm. Il demande pas non plus d'avocat. Il décrit pendant plus de 7 heures, OK, ce qui s'est passé. Puis pendant 7 heures, il démontre pas une fois un signe de fatigue. Il pogne pas les nerfs une fois. Il a pas l'air énervé, il raconte les événements de la journée fatidique de cette journée-là.
Mm-hmm.
Les enquêteurs se montrent insistants puis très confrontants, n'hésitant pas à lui dire à quel point il trouve suspect. Puis à aucun moment, je le répète, là, à aucun moment, Plot, il pogne les nerfs. Il s'énerve pas contre les policiers non plus. Il est froid, il est fret.
C'est un œuf dur à craquer, là.
Il dit pas grand-chose, puis il réitère encore une fois qu'il y a eu un rapport sexuel consenti avec Mélissa, puis il dit même que elle l'a invité à manger avec elle, mais lui, il a préféré quitter. Puis quand les policiers lui demandent s'il est allé chez Mélissa cet après-midi-là avec l'intention de la tuer, Matthew répond tout simplement, je n'avais pas l'intention de blesser Mélissa. Pour les enquêteurs, même si ça sonne comme quelqu'un qui dirait plutôt ben, je voulais pas la tuer, mais c'est ça qui est arrivé, là, ça sonne ça à leurs oreilles, mais c'est pas assez pour l'arrêter, tu sais. Puis là, les policiers décident de tenter le coup de cacher des micros dans la caserne puis de provoquer une conversation entre Plot et son supérieur dans l'espoir qu'il se livre à cette personne en qui il a confiance, parce que là, éventuellement, il retourne travailler, là, parce qu'ils ne peuvent pas l'arrêter.
Non.
Mais même après 2 heures d'entretien à job, là, il dit rien. Il dit absolument rien à propos de son ami, de Mélissa puis du bébé à naître. Les policiers sont comme, on essaye tout, mais on n'a rien, là. La famille Lamèche, elle n'en peut plus, puis on peut y comprendre. Il harcèle même la police, honnêtement. Ils essayent par tous les moyens d'obtenir justice pour leur fille et leur petit-fils, mais ça avance pas. Puis tu n'as pas grand-chose à faire dans ce temps-là. Ils peuvent juste attendre, mais ils sont plus capables d'attendre. Leur fille est morte, puis le bébé est mort. Ça change leur vie totalement. Puis ils savent que c'est lui. Ils sont comme... Puis là, il faut encore attendre le rapport du coroner, il faut attendre les résultats d'Amazon, il faut attendre le rapport d'autopsie, puis tout ça. J'en peux. T'sais, à chaque fois, chaque étape, chaque fois qu'il se passe de quoi, il faut tout le temps qu'ils attendent. T'sais, quand l'autopsie a été faite, il faut l'attendre comment il est mort. C'est tout le temps, c'est long.
Oh my God.
Puis finalement, le rapport d'analyse d'ADN finit par arriver. Puis même si Plot, il a vraiment bien couvert ses arrières en mentionnant plusieurs reprises avoir eu un rapport sexuel consentant, et non protégé aussi, hein, il l'avait dit avec Mélissa.
Elle était déjà enceinte, qu'est-ce que tu veux faire?
C'est ça. Les maladies, les infections.
Sure. Well, c'est vrai, parce que M. Plot était un sale Gilligan.
Fait que, il était comme, je couvre toutes mes arrières, je vais le dire, j'ai des relations consenties puis pas protégées. Fait que s'il trouve mon ADN, c'est pas weird, tu sais. Mais il ne pouvait pas prévoir, par contre, que l'échantillon qui serait retrouvé sur Mélissa, ça serait sous ses ongles puis c'était pas du sperme.
Oh, elle s'est défendue! Oh, good. OK. Ça, c'est une grosse red flag, là.
Le 9 mars 2022, près d'un an et demi après la mort de Mélissa et de Barrett, les policiers peuvent enfin arrêter Matthew Plot et l'inculper de meurtre au premier degré, 4 chefs, homicide intentionnel d'un enfant à naître, 3 chefs, incendie criminel résidentiel, 1 chef, voie de fait domestique aggravée, 1 chef, dissimulation d'un décès, homicide, 1 chef.
Prison à vie.
Pendant les 2 années de détention préventive de Plot, ses avocats misent beaucoup sur l'image du pompier et de l'ambulancier vertueux qui a dédié sa vie à aider les autres.
Mm-hmm.
Puis en effet, le parcours professionnel de Matthew est reluisant puis il laisse pas vraiment présager ce genre de dénouement-là.
Mm-hmm.
Le 18 mars 2024, le procès de Matthew pour le meurtre au premier degré de Mélissa Lamèche, l'homicide intentionnel de Barrett, leur enfant à naître, de voie de fait domestique aggravé, de dissimulation d'essai, blablabla, débute. Le procès débute.
Mm-hmm.
Il va plaider non coupable, évidemment, à tous les chefs. On est habitué de ça. Puis quand on traite des cas de meurtre au premier degré survenus aux États-Unis, d'entendre des prévenus tenter de faire des ententes avec la poursuite afin d'éviter la peine de mort, ça arrive souvent. Là.
Mm-hmm.
Mais... En Illinois, la peine de mort a été officiellement abolie en 2011 par le gouverneur, Pat Quinn, qui a signé une loi mettant fin à la peine capitale dans l'État. Mm-hmm. À ce moment-là, les peines de mort des 15 détenus dans le couloir de la mort ont été commuées en peine de prison à perpétuité. Fait que l'Illinois avait déjà suspendu les exécutions en 2000 en raison de nombreuses erreurs judiciaires. Fait que là... on disait à l'époque que le système n'était pas assez fiable pour garantir une justice équitable. Donc, Matthew, dans son cas, le fait de plaider non coupable à une accusation d'un meurtre au premier degré, ça ne peut pas le mener à l'exécution. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. C'est que s'il plaide coupable, ils vont se tirer de la peine de mort puis ils vont avoir prison à vie. Mais lui, il ne risque rien à plaider non coupable. Fait que la peine maximale qu'il risque d'obtenir, c'est une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
Right.
Reste que quand on fait le calcul, c'est un pari risqué parce qu'à 37 ans, s'il est condamné à la peine maximale, il risque de passer plus de 40 ans incarcéré en établissement de détention maximale. Donc ça, ou mourir, je ne sais pas ce qui est pire.
Mm-hmm. I mean...
C'est tes conditions de vie, je pense, en prison.
En Well, c'est ça. Tu vas pas vivre longtemps en prison. Spécialement si t'es un tueur de bébés. Il aime pas ça.
De femme, oui.
Il aime pas ça en prison.
Non.
Ça va pas être facile pour M. Platt.
Le procès, c'est un procès super rapide. Le Michel a écrit un procès éclair. Ça a duré moins d'une semaine.
Let's go!
L'accusation fait état des preuves trouvées et les écrit en détail. Là, il y a le déroulement du meurtre, le déroulement de l'incendie, la vie secrète de Plot, la vie de Mélissa, ses aspirations pour son bébé, son implication sociale, les mensonges de Matthew Plot et les mensonges par omission. Ses nombreuses copines, par exemple. Les procureurs de l'État reviennent aussi sur le deadline dont avait parlé Matthew, à son premier interrogatoire. Pour eux, le deadline dont ils parlaient, c'était la naissance de Barrett.
Yeah.
Puis là, si on fait le calcul, le deadline devenait très serré. Le 27, il serait trop tard pour se débarrasser du bébé, car il serait né. Le 26, c'était Thanksgiving. Fait que la femme
va être entouré de sa famille. C'est pas le moment idéal pour tuer quelqu'un.
Exactement.
Son of a bitch.
Il lui restait donc le 25 novembre 2020. Il a donc pris congé. Il est allé mettre son plan à exécution. La défense, face à peu d'options qu'elle a, elle a tenté de discréditer les témoins qui, l'un après l'autre, sont restés solides et convaincants. Ils font souvent ça. Là. Quand ils ne savent pas quoi faire, la défense, ben, ils vont essayer de mettre en branle la crédibilité de ceux qui viennent témoigner contre leurs clients, finalement.
Mm-hmm.
Les spécialistes sont confiants. Les membres de la famille sont émouvants et documentés, alors qu'il n'est pas évident de déstabiliser ses présentations.
Mm-hmm.
La médecin légiste qui a procédé à l'autopsie de Mélissa livre un témoignage émouvant. Hein. Elle rapporte que selon les taux de monoxyde de carbone et l'absence de suie, c'est évident pour elle que Mélissa était déjà morte avant le feu. Elle confie alors que le corps de Mélissa portait des traces de lutte très violentes.
Mm-hmm.
Mélissa s'est battue pour sa vie puis celle de son fils pendant plusieurs minutes.
Oh God, Jennifer, frisson. Oh.
La quantité d'hémorragie pétéchiale, la quantité de veines qui ont pété dans son cou était tellement importante que la médecin légiste a dit qu'elle n'en avait jamais vu autant de toute sa carrière. Mélissa s'est pas laissée faire. Pendant qu'elle luttait pour sa vie puis la vie de son bébé, elle a probablement griffé Matthew, qui c'est ça qui va faire en sorte qu'on a pu avoir assez de preuves pour arrêter son tueur, finalement.
Right. C'est sûr que son défense vont dire « Well, Matthew avait dit qu'il était en train de faire un sexe consentant, puis elle avait l'habitude de graffiner son dos, whatever, pendant des actes salaces. » Mais come on, là.
Mais je pense que ça, puis c'est toutes les circonstances. Yep. C'est lui qui était là le dernier la maison, puis il est morte avant le feu.
Puis tu sais qu'il n'a même pas mentionné que il y avait un bébé on the way à ses collègues aux casernes.
Parce qu'il savait qu'il allait pas l'avoir. Il savait qu'il allait pas l'avoir, ce bébé-là.
Le son of a bitch.
Ah. Alors, le 22 mars, les jurés se retirent pour délibérer. Moins de deux heures plus tard, sont revenus en cours pour reconnaître Matthew Plot coupable.
Super coupable.
Tous les chefs d'accusation.
Le son of a bitch.
Il y avait des soupirs, des sanglots de soulagement. Tu peux entendre ça dans toute la salle d'audience. La justice a été rendue pour Mélissa Lamèche et Barrett Lamèche.
Oh, baby Barrett, no!
Le 27 juin 2024, c'est la comparution du prononcé de la sentence de Matthew. Lors de cette audition, les proches des victimes des condamnés sont invités à venir prononcer ce qu'on appelle un témoignage d'impact, des Victim Impact Statement. C'est là que souvent les survivants de tout ça vont crier après le criminel, puis ça, j'adore ça.
Mm-hmm.
C'est une déclaration faite par une victime ou ses proches pour décrire les conséquences d'un crime sur leur vie, puis présentée au tribunal après la condamnation de l'accusé, mais avant la détermination de la peine.
That's right.
Ça vise à aider le juge à mieux comprendre la portée humaine du crime.
Mm-hmm.
Ça peut être lu en personne ou remis par écrit. Puis la sœur de Mélissa, elle a dit ceci. J'aurais pas dû passer Thanksgiving cette année-là avec l'impression que plus rien ne méritait ma reconnaissance. C'est comme irréel. Ça ne devrait pas être réel, mais ça l'est. Et c'est réel parce qu'un homme a décidé que Barrett et Mélissa n'étaient pas importants ou désirés. La mère de Mélissa dit « Rien de tout cela n'aurait dû se produire. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de partir et de les laisser tranquilles. » Plot, quant à lui, va dire « J'ai rien à ajouter, sauf que je partage la douleur et la tristesse causées par la perte de Melissa et Barrett.
Oh, fuck you, Matthew.
Alors, Matthew Plott est condamné à plusieurs peines pour le meurtre de Melissa Lamèche et de leur fils à naître, Barrett. Prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre au premier degré de Melissa. 60 ans de prison pour l'homicide intentionnel de l'enfant à naître. 15 ans de prison pour l'incendie criminel résidentiel ayant mis en danger le voisinage en tentant de dissimuler le crime. Donc, ce sont des peines concurrentes. Elles doivent donc être purgées simultanément. Ça ne change pas grand-chose, étant donné qu'il est condamné à perpétuité. Mais bon, rendu là, c'est plus...
technicalité, genre.
Ben, c'est ça, là. Le juge qualifie ce crime de brutal puis rappelle que Melissa a lutté pendant plusieurs minutes pour sa vie et la vie du bébé. Malgré l'absence du casier judiciaire de Matthew Plott, le juge estime que la gravité des faits justifie l'imposition de la peine maximale. En 2024, les avocats de Matthew ont déposé une requête pour demander la révision de la sentence, invoquant son absence d'antécédents criminels.
Oh, go to hell, man.
Le juge a dit non, c'est approprié.
That's right.
Vu la nature préméditée et violente du crime. La famille Lamèche a décidé de faire don de tous les cadeaux et jouets obtenus pour Barrett à un refuge local pour les personnes sans domicile fixe.
Oh, c'est triste!
Ils ont fait un important don en argent au refuge sans euthanasie où Melissa avait adopté son chat adoré Antonio.
Oh.
Ils ont aussi fait l'achat avec les sous issus d'un GoFundMe fait par le frère de Melissa d'un arbre en l'honneur de leur fille qui s'illuminera tous les ans pour Thanksgiving, rappelant à tout le monde combien elle éclairait les autres avec sa personnalité pétillante. Cette histoire est tragique parce qu'elle aurait pu être évitée si facilement, genre, laisse-les tranquille. Melissa voulait juste permettre à tout le monde d'avoir une belle relation avec son fils Barrett. Elle voulait avoir son petit bébé et elle ne demandait pas à Matthew d'être présent. Elle ne lui demandait pas une scène. Mais elle se doutait bien que ses parents, lui, allaient être heureux.
Oh, I mean, Matthew, just tout simplement, fuck off, vis ta vie de Gideon, puis laisse-les fucking tranquilles, Chris. Oh
le bébé,
my God, what a
naître,
son of a bitch.
Il allait naître moins de 48 heures plus tard.
Oh, tiens la main!
Fait que c'était ça, l'histoire d'aujourd'hui. Tu veux savoir les sources de Michel?
Ah, frappe-moi donc avec les sources.
People.com, CBC News, Statista, Amnesty.org, Wikipedia, Shaw Local, EMS1.com, Shaw Local, CBC News, CBC News. Et moi, j'avais vu ça sur Court TV.
J'haïs ça, Jennifer.
Plot.
C'était plot.
Oh, merci, gang, d'avoir écouté. C'est dégueulasse.
J'ai mal à l'estomac, Jennifer.
Je vous aime, gang. Bye.
Bye.
Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 16th through the 26th. With prices starting at $34.29, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your bedroom, living room, or home office, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.